Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même at, à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute.
Oh my god, Internet, ça va ou quoi?
C'est quoi le problème? Je suis un peu zinzou? Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte.
J'espère que vous êtes ready pour la dingue.
Pas la peine d'être désagréable.
Et y a pas de naninana, non. N'hésitez pas à vous abonner.
Ok. On est parti sur Reddit pour lire l'actualité ensemble, tout simplement. Ah, bon bah écoutez, on a peut-être notre premier sujet. Elon Musk annonce la fin de Twitter, remplacé par X.com. Un sujet Numérama, mes anciennes collègues de chez Numérama, puisque Mademoiselle a été rachetée par le groupe humanoïde dont Numérama fait partie. On va donc aller lire cet article sur Numérama qui est signé Nicolas Lelouch. Voilà. Elon Musk annonce la fin de Twitter, remplacé par X.com. Pendant ce temps, pendant que je lis, je vous fais un sondage rapide dans le chat. Est-ce que vous êtes sur Twitter? À savoir, même si vous tweetez pas beaucoup ou pas du tout, pour moi, si vous lurquez, entre guillemets, c'est-à-dire si vous utilisez Twitter pour juste lire ce que les gens racontent, ça compte quand même. Par exemple, moi, je suis sur Reddit, j'y poste pas, mais j'y vais tous les jours, donc je vais pas dire que je suis pas sur Reddit. Est-ce que vous êtes sur Twitter? Est-ce que vous utilisez Twitter? Parce que je sais que c'est toujours un réseau qui peut parfois être suramplifié. Les médias vont beaucoup en parler parce que les journalistes sont sur Twitter et les journalistes adorent parler d'eux et c'est là où ils voient leurs infos et tout. Mais en fait, Twitter, c'est pas un réseau qui est extrêmement utilisé en France. Donc voilà, on va faire un petit sondage dans le chat. Êtes-vous sur Twitter? Et on va lire Numérama. Plusieurs mois après avoir promis qu'il créerait un jour X, l'application pour tout faire, Elon Musk a décidé de renommer Twitter et de détruire son identité. Le réseau social à l'oiseau bleu commence à perdre son oiseau et son bleu. Il faudrait être fou pour tuer une marque aussi connue que Twitter, non? Le 23 juillet, Elon Musk a annoncé qu'il allait détruire l'identité du réseau social qu'il a racheté pour 44 milliards de dollars pour le transformer en X, un hommage à sa lettre préférée. Non, ce n'est pas une blague. La direction de Twitter a bel et bien confirmé que ce projet était réel et sur le point de se produire. Depuis le 24 juillet, le site X.com redirige vers l'ancien Twitter avec un nouveau logo sur la page d'accueil. Depuis qu'Elon Musk est le propriétaire de Twitter, on lit souvent que le milliardaire s'aborde ce qui est devenu sa propriété. Une allégation facile à défendre au vu des multiples incidents qu'il a causés. Numérama a même une page dédiée aux décisions douteuses d'Elon Musk. Même si les fans du milliardaire continuent de défendre sans hésitation ce qu'il se passe, sous prétexte qu'Elon Musk souhaite juste le bien du réseau social et sait ce qu'il fait. La disparition de la marque Twitter après 17 ans d'existence mettra au moins d'accord tout le monde sur une chose, Elon Musk n'a aucun amour pour la marque qu'il a rachetée. Comme il l'a souvent répété, Elon Musk se rêve plus en créateur d'une super application, inspirée du modèle chinois qu'est WeChat. Le milliardaire aimerait créer une application indispensable dans le monde entier qui permettrait de tout faire, en plus de consulter des messages postés par des internautes. Il rêve d'appeler cette application X en hommage à ses débuts. Sa première entreprise s'appelait X.com, Elon Musk a ensuite mis cette lettre partout. Musk l'a toujours dit, racheter Twitter était un moyen d'accélérer ce rêve. En gros, Elon Musk se moque un peu de Twitter et de son héritage. Ce qui l'intéresse, c'est la base d'utilisateurs très actifs de Twitter qui pourraient immédiatement alimenter son projet X. Projet X, vous l'avez ? Le film. Donc là, on a des tweets d'Elon Musk qui dit « Si on a un logo assez bien pour X ce soir, on le lance worldwide demain. » bientôt nous dirons adieu à la marque Twitter et à tous les oiseaux, parce que donc Twitter ça vient du tweet des oiseaux, hein. Franchement, j'adore le feedback négatif sur cette plateforme, c'est bien préférable à un bureau de la censure. Est-ce qu'on change le mode par défaut en noir, oui ou non, votez sur Twitter. Bon, vous êtes une petite, toute petite majorité à être sur Twitter, 57% contre 43% sur le chat, comme quoi c'est vraiment pas un réseau qui concerne et qui donne la parole et qui permet de lire tout le monde. On revient sur Numerva. Elon Musk a-t-il vraiment besoin de tuer la marque Twitter pour arriver à son objectif ultime ? En avril 2023, le milliardaire avait déjà remplacé Twitter Inc., la structure propriétaire de Twitter, par X Corp. Son intérêt pour le nom Twitter semble si faible qu'il semble pressé de tout démolir dans le but de recommencer à zéro. Une décision ultra risquée, encore plus au moment où un concurrent est en train d'émerger. Threads, qui est donc le concurrent de Meta, pourrait profiter de la mort de Twitter pour s'imposer encore plus comme un refuge pour ses utilisateurs. Avant même d'avoir déployé le nouveau logo de Twitter en forme de X, Elon Musk a prévenu que l'oiseau ne survivrait pas, tout comme la couleur bleue. Les internautes peuvent choisir entre noir et blanc, mais Elon Musk semble préférer le noir. Dans un premier temps, ce changement de nom est surtout symbolique. La mise à jour déployée détruit le nom Twitter et toute l'identité qui va avec, mais l'application devrait rester la même. La première étape consiste en un remplacement de l'icône par un X intérimaire, avant un changement définitif. Vraiment, ça sert à rien. Dans un second temps, X pourrait transformer considérablement le réseau social. Linda Yaccarino, la nouvelle CEO de Twitter, que certains moquent pour ses messages trop lisses, parle d'une application centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, le paiement et d'une place de marché pour les idées. Elle ajoute, parce que c'est à la mode, qu'il y aura un peu d'intelligence artificielle dans X. Tout cela semble néanmoins au stade embryonnaire, la décision d'Elon Musk ne concerne que le nom. La manière avec laquelle Elon Musk décide est toujours mystérieuse, ce qui nous empêche de réaliser le moindre pronostic sur l'avenir du réseau social pour l'instant. Ce qui est certain est qu'Elon Musk a soudainement décidé d'initier des changements, ce qui pourrait entamer une nouvelle phase dans son rachat de Twitter, après avoir déjà défait énormément des actions de la direction précédente et licencié la très grande majorité des équipes. Elon Musk a-t-il des chances de créer l'application universelle dont il rêve ? Sans manquer de respect à ses incroyables réussites, il semble peu probable qu'Elon Musk ait autant de succès avec X qu'avec les voitures électriques ou les fusées. D'abord parce que Twitter n'a jamais réussi à décoller, elle reste une application très communautaire. La preuve, vous n'y êtes pas trop, mon chat. Ensuite parce que les écosystèmes logiciels sont contrôlés par Apple et Google dans l'Occident. Qui imagine vraiment iOS et Android laisser une application tierce les concurrencer alors qu'ils ont toujours tout fait pour contrôler l'expérience utilisateur ? Si Elon Musk est sérieux quand il parle de créer l'application numéro 1 de paiement dans le monde, alors il lui faudra affronter Apple Pay et d'autres géants comme PayPal qu'il a contribué à créer dans une autre vie. En attendant le déploiement officiel de X, Elon Musk a publié une vidéo montrant l'animation du logo de son nouveau réseau social. L'URL x.com redirige désormais vers twitter.com, tandis que la page d'accueil du site a remplacé l'oiseau par la lettre. Pour les applis mobiles, il faudra attendre les validations de Google à Apple. Gare cependant à comment vous l'écrivez. Choisir la lettre X n'est sans doute pas la meilleure idée d'Elon Musk pour éviter d'envoyer ses utilisateurs sur des sites pornographiques. Voilà, fin de l'article. Et ce qui est cocasse, c'est que le fil d'article lié n'est pas sur Twitter, mais sur le Twitter killer lancé par Meta, alias Facebook, le groupe Facebook, qui s'appelle Threads et qui est lié à Instagram. Ok, ça c'est l'article de Numerama. Qu'est-ce que vous en dites finalement sur le chat ? Je vais vous lire un peu et puis ensuite on ira lire Reddit. Qu'est-ce que Reddit en veut ? X, la meilleure des idées pour le référencement, notez Zoc évidemment. Chino est sur Twitter mais il n'est pas actif. Sibail me dit, j'y suis mais ma santé mentale en souffre, faut vraiment que je décroche, mais je m'informe beaucoup par là. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal de violence sur Twitter. Après, peut-être que, justement, limiter tes followings à des comptes d'information et pas à des internautes lambda qui réagissent et s'indignent, etc., sur l'information, ça peut peut-être être une solution. Si Twitter ferme, ça me fera pas un gros vide, nous dit Ezoc. Mywen, j'y suis pour réclamer des sous quand les compagnies EasyJet me doivent des sous. Ça marche aussi quand le service client n'est pas réactif. Petricor, Twitter est à fond. Twitter, je suis à fond dedans, voire carrément accro, mais seulement en leur cœur. Bah, c'est vrai que moi-même, je tweete très peu et tous mes tweets quasiment concernent mon boulot. Je fais tel live, il y a tel replay qui est sorti, etc. Je fais très peu de tweets en dehors du pro et encore moins sur du perso slash intime, car non merci, j'ai vu Twitter, non merci. Ils ont changé l'oiseau en X ce matin sur ma version desktop. J'avoue, ça me fait un petit quelque chose. Chino nous dit, après il faut bien comprendre que Twitter ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, l'article rappelle, la boîte n'est pas spécialement rentable. Le fait que Musk rachète et transforme le réseau, c'est le coup de grâce. Arnaud nous dit, j'étais sur Twitter mais je ne l'utilisais plus car trop anxiogène et j'ai supprimé mon compte quand Musk a commencé ses débilités. Ça peut être l'occasion, vous êtes beaucoup à dire Twitter ça me stresse, ça me fait des émotions négatives. Du coup, bah maybe ça va être l'occasion, ce changement vers X, de dire ciao à Twitter. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative cool en termes de réseau social similaire. Je ne suis pas encore sur Threads, parce que Threads n'est pas ouvert dans l'Union Européenne, parce que Meta ne respecte pas la protection des données, il me semble que c'est ça. Donc, il faut qu'il change des trucs. Je sais qu'on peut l'installer quand même, il y a un article Frandroid qui explique comment faire, mais voilà, je vais pas genre jailbreak mon iPhone ou je sais pas quoi pour installer Threads. Je vais poliment attendre que ça sorte, sachant que je crois que ton nom d'utilisateur c'est forcément ton @insta, donc je peux pas me faire piquer mon @, vu que ce sera mon @insta, personne peut le prendre. Donc je suis tranquille. Refaire WeChat en dehors de Chine, bonne chance. Little Volpe nous dit « Ce qui me saoule, c'est que s'il veut faire une appli toute nouvelle, pourquoi il n'a pas juste créé la sienne au lieu d'en racheter une qui plaisait à beaucoup de gens et de la détruire pour faire son truc ?» Bah, le rachat de Twitter par Elon Musk reste un genre de pari viriliste de con provoque. Donc, je suis pas sûre qu'il ait eu un long game en tête dès le début. Hein. Je suis pas spécialiste business, mais j'ai l'impression que les spécialistes business se rejoignent sur « Il n'a pas forcément beaucoup réfléchi, quoi. » Et en fait, Twitter a dit « Ok, bah maintenant que tu l'as dit, tu nous rachètes, c'est comme ça que ça marche la loi. » Et il était là « Quoi ?» Ils ont fait « Oui. » Voilà, donc bon. Un jour, Nolan fera un film de 3 heures sur le jour à Elon a renommé Twitter en X. Mais non, Fincher, Social Network 2. Qui jouerait un bon Elon Musk ? Alors, j'ai pas d'évidence qui me vient là comme ça. Vous avez, vous ? En plus, je le hais, donc j'ai pas envie de parler d'un acteur que j'aime bien. J'ai pas envie de faire ça à quelqu'un que j'aime bien. Imaginez, c'est Ryan Gosling qui joue Elon Musk. Merci Chino qui vous a mis dans le lien l'article sur comment installer Threads. Après voilà, Threads n'est pas disponible dans l'UE parce que ça ne respecte pas les réglementations de l'Union Européenne. Donc c'est à vous de décider si vous voulez installer une appli qui ne respecte pas la loi, qui appartient à fucking Mark Zuckerberg quoi. Et qui, pour rappel, alors c'est bien de le savoir, si vous installez Threads, vous pouvez pas supprimer votre compte sans supprimer votre compte Instagram parce que c'est lié à votre compte Instagram. Donc quand vous créez votre compte, vous pouvez ne pas poster dessus mais vous ne pouvez pas le supprimer sans supprimer l'intégralité de votre compte Instagram. À bon entendeur. Salut. Paul Dano, François Civil en Elon Musk. Robert Downey Jr. est aussi un sub que Iron Man. Robert Downey Jr. a beaucoup plus... Enfin, parce que Elon Musk est aussi un sub que Iron Man. Elon Musk voudrait être Iron Man. Il a beaucoup moins de charisme, quoi. Je vois tellement Elon en mode enfant de 5 ans en train de jouer avec ses amis. Et là, moi, je rachète 1000 milliards de dollars Twitter. Et Twitter qui dit, ok, maintenant, donne argent. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé. Edward Norton. Ah, c'est vrai qu'il y avait un Elon Musk-like dans... Alors, il y a peut-être Elon Musk dans Iron Man 2. Ah oui, ok, j'avais oublié ce caméo. Mais le méchant de Iron Man 2, enfin l'antagoniste, pardon, qui est joué par Sam Rockwell, que j'adore, qui est pareil, un genre de start-upper fabricant d'armes show-off, je crois que je l'aime bien et que je suis un peu la seule à bien l'aimer. Il est pas mal. Et oui, évidemment, dans Don't Look Up, mais aussi dans... Glass Onion. Le personnage joué par Edward Norton est très largement inspiré, bien sûr, de Elon Musk. Ok, que dit Reddit de ce changement de nom pour Twitter ? Le top commentaire dit « J'ai vraiment du mal à comprendre. Twitter a son propre verbe dans toutes les langues sur Terre. Évidemment, on tweet, on retweet. Il lui faut quoi de plus ?» Et quelqu'un répond « Son nom dessus pour pouvoir dire que c'est lui qui a inventé le bousin. » Mais il n'y a pas de X dans son nom, il devrait l'appeler Musk-ter. Tweetusk. Tweetusk, c'est plus pratique à prononcer que Musk-ter, pour Musk-Twitter. Mais quelqu'un dit en même temps, ça sonne comme mousquetaire et il est trop nul ce mec, ça claque. C'est pas faux. Vanity Fair a fait un article qui dit qu'Elon Musk a voulu se faire construire une maison en verre au Texas. Je pense, oui. Et Rian Johnson, le créateur de Glass Onion, donc Knives Out 2, l'a retweeté, enfin a répondu genre ha 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 ha. Parce que parfois, la réalité dépasse la fiction. Hein. Vous savez, c'est comme quand... On a appris que David Cameron avait mis son pénis dans un cochon comme dans Black Mirror. Voilà, si vous ne savez pas de quoi je parle, retrouvez mon live Black Mirror avec Vincent Manilev en VOD sur cette chaîne, sur YouTube, mais aussi en podcast. Voilà, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Sur Reddit, on nous dit encore « Zuckerberg a repris 2 fois du pâté aux truffes en lisant cet article ». Et quelqu'un lui répond « Tu es fou, c'est poulet lentille pour The Kill, se prépare pour le combat. » Oui, parce qu'il y a cette histoire, mais ça va, je vous le dis, ça va jamais arriver. Hein, voilà, prédiction Mimi, remind me dans 2 ans. Il y a cette histoire de défi, de combat singulier entre Musk et Zuckerberg. Le truc, c'est que Musk, c'est Musk, et que Zuckerberg, il s'entraîne avec des champions de MMA et tout. Zuckerberg, en fait, il est stock de fou, et il s'entraîne avec des gars qui déconnent zéro. Donc Zuckerberg, il était là « Yes, bah let's go !» Ce qui est, il y a 1000 choses à dire sur les hommes, ok ? Les hommes, calmez-vous. Mais ça va pas arriver, c'est comme je sais pas, il y avait pas un truc genre Sardoche, je sais pas qui devait se faire, Boubacaris, je sais pas, I don't know, it doesn't happen. Future streameuse React combat MMA de milliardaire. Spoiler, je suis pour personne, je suis pour les cordes. Sur Reddit encore, est-ce qu'on est d'accord que toutes les mauvaises décisions à prendre ont été prises ? Il en reste probablement quelques-unes à prendre, faisons-lui confiance là-dessus. Oui, parce que donc il a viré le checkmark Twitter pour en faire un truc payant qui du coup n'est plus du tout une vérification de ton identité. Il a fait un autre checkmark gold pour d'autres types d'institutions. Il a libéré totalement la parole néo-nazie sur la plateforme et réinstauré des gens qui avaient été bannis pour propos discriminants. Enfin, fucking Elon Musk, quoi. On le déteste. Linda Iaccarino, je me demande à quoi elle sert à part être le fusible d'Elon Musk. Alors, une chose, probablement à gagner de la thune, hein, quitte à être un fusible, autant être bien payé. Deuxième chose, connaissez-vous le concept de la falaise de verre? C'est un concept féministe qui est bien sûr inspiré du concept du plafond de verre, qui fait qu'à un certain niveau de responsabilité, de revenus et tout, on va trouver moins de femmes dans certaines strates. Car elles ne vont pas accéder à certains postes à responsabilité. La falaise de verre, c'est l'idée que, dans des situations de merde, de crise, pour des jobs où les mecs ont déjà bien tout gâché et où on peut pas vraiment gagner, on va mettre une meuf à la tête du truc pour qu'elle se crame bien la gueule comme un bon fusible, ce qui permettra d'enchaîner avec, idéalement, un bon mec blanc de 50 ans ensuite, hein, on va revenir aux valeurs fondamentales qui ont marché jusqu'ici, ce qui permettra de dire, on n'est pas sexiste, regardez, on a une femme PDG. Et ce qui permettra aussi, inconsciemment, de rappeler que, bon, les gonzesses, bon, elles s'en sortent pas toujours. On, par exemple, Valérie Pécresse, candidate Les Républicains à la présidentielle 2022, une présidentielle qui était très largement perdue d'avance. Ou notre première ministre, peut-être, c'est possible. En tout cas, c'est un job assez ingrat. Après, t'es là, tu gagnes énormément de thunes, tout le monde te déteste, mais bon, tu peux t'acheter les meilleurs boulkets et pas entendre les haters. I don't know. Je ne le ferai pas, mais I don't know. Bon, on est assez d'accord. On est dans une forme d'unanimité de Elon Musk fait de la merde avec Twitter. J'ai une vraie interrogation. Je pense pas avoir vécu la fermeture d'un réseau social. J'ai vécu la mort naturelle d'un réseau social de type, on n'est plus sur Skyblog, on n'est plus sur des forums, on n'est plus sur MySpace. Mais pas parce que MySpace a fermé ou s'est crashé ou ne pouvait plus payer les gens parce que Twitter a des retards de paiement de loyer, etc. Je sais pas ce qui se passe si demain je clique sur Twitter qui est devenu X du coup et que genre y a rien. Et qu'on me dise ce service n'existe plus. Genre, est-ce que c'est possible? Bah, MSN, j'ai pas vécu la fermeture de MSN. J'ai juste arrêté d'aller sur MSN, mais MSN existait toujours pendant longtemps, quoi. Google Plus. Non, mais je sais que. Ok, je sais qu'il y a des. Parce que vous me dites Google Plus est fermé, Vine est fermé, Periscope est fermé. C'est pas des réseaux que j'utilisais. J'ai jamais vécu la fermeture de réseaux sociaux que j'utilisais, car je n'aime pas les vidéos. Donc oui, c'est fermé, mais j'étais pas là en mode. Mais en fait, j'y allais tous les jours, quoi. Vraiment, quand est-ce que j'allais sur Google Plus, la MIF? On n'allait pas sur Google Plus, on le sait, quoi. Tumblr a muté, mais Tumblr est toujours là. Donc, on se retrouve sur Insta, comme ça, on va tous finir sur Meta, quoi. Bon. Et TikTok, top. Top. Donc, je dis pas que Twitter va fermer demain, j'y connais rien, honnêtement, mais je suis curieuse de voir la suite pour cette entreprise qui est dans la worst timeline. Hein. This is a bad place for Twitter. Et en même temps, peut-être que Twitter aurait dû faire mieux à certains niveaux, voilà, pour être pas une entreprise qui finira achetée par un connard. I don't know, il y a des gens qui sont devenus très riches grâce à ça. Je crois que Jack, le mec qui a fondé Twitter, bosse sur un Twitter-like. Donc, écoutez, on verra, quoi. Au pire, on fera des lives, on se parlera dans le chat. Ce sera pas mal. Ok, c'était le sujet Reddit France. On va aller voir ce qui se dit sur Ask France. Ce qui n'est pas exactement pareil que Reddit France, c'est aussi des questions qui permettent de voir est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus, etc. quoi. Et aussi des questions que des personnes anglophones peuvent poser à des Français pour avoir des réponses sur soit comment ça se passe visiter la France, soit comment vous percevez tel truc. Ok, on va aller voir le top post pour l'instant, qui est une question posée par une personne anglophone qui dit « Si vous étiez forcé de quitter la France, dans quel pays iriez-vous vivre ?» Et c'est une bonne question, donc on va pas lire les réponses tout de suite. Ah alors, on va pas lire les réponses tout de suite, je vais vous laisser me dire dans le chat si vous vivez en France et que vous deviez quitter la France, dans quel pays iriez-vous vivre ? Moi, c'est très simple, j'ai très peur de m'expatrier, je n'en ai pas envie, j'irai donc vivre en Belgique. Voilà, j'irai à Bruxelles, comme ça je peux rentrer en Thalys quand je veux, manger du vrai pain et du vrai fromage. Et on est ravis. Nous avons les gros weebos du chat, bien sûr, le Japon... Ezoc reste où il est, puisqu'il est en Suisse. Lisbonne. Sympa, Lisbonne. Pas loin, il fait beau, on mange bien, mais le portugais, c'est dur à apprendre, j'ai l'impression. Canada. Ça a l'air cool, le Canada, j'avoue. Quand j'étais à la fac, j'aurais pu faire un échange de 6 mois à Montréal. Et j'avais trop peur à chaque fois, j'ai jamais essayé. Et des fois, je me dis, j'aurais dû. Et d'autres fois, je me dis, j'en serais pas là. Mais ça avait l'air cool. Je suis partie. En Allemagne, nous dit Cadlo. En Belgique, on est ensemble, faille spatio-temporelle. Maïwan est déjà partie au Royaume-Uni. Ah, si belle, qui est belge, nous dit venez chez vous. La Belgique, c'est mid, mais. Bah, venez chez nous, du coup, j'imagine. La Belgique, c'est mid, mais plutôt confo dans l'ensemble. Franchement, Bruxelles, c'est pas mid. C'est très bien, quoi. Chino partirait dans un pays anglophone, mais je sais pas où. Écoute, l'Écosse. Non, c'est beau, l'Écosse. Est-ce qu'on n'a pas envie de vivre à Édimbourg? On a envie de vivre à Édimbourg. Le Portugal, pour la bouffe, les Pays-Bas, nous dit Dorian Gray, pas pour la bouffe, du coup. Hein. Désolé, les Pays-Bas, mais. Little Volpe, l'Irlande. Je suis rentrée il y a 2 semaines après 6 mois. Je pensais que c'était fini. Ça me manque tellement que j'y retourne dans 1 semaine. J'ai trouvé un job d'été avant ma rentrée à la fac. Mais machallah, bravo! Trop cool! Moi, ouais, je pense l'Écosse, ça peut être cool. Si je devais aller ailleurs qu'en Belgique. Ah, Cadelot nous dit, je me suis rendu compte que l'Allemagne, c'est pareil que la France, mais en plus bureaucratique. Ils sont encore au fax, l'internet est à chier et cher, et moins adepte du beau. Le pratico-pratique, c'est sympa un temps, mais le côté esthétique français me manque un peu, et le régime alimentaire des Allemands est très limité. Et oui, je suis assez d'accord avec cette lecture de l'Allemagne, alors où je n'ai pas vécu longtemps, mais où, que, dont je pense connaître un petit peu la culture. Effectivement, il y a un aspect fonctionnel à l'Allemagne, et pas forcément chaleureux, et pas forcément un peu, voilà, un peu poète troubadour qu'on peut avoir en France, quoi. En Corse. C'est la France, la Corse, pour l'instant. Sauf si j'ai raté un bail, quoi. Je suis déjà partie au Canada, je suis déjà partie en Allemagne. Bon, bah, écoute. Vous vous êtes bien baladé déjà. Moi, j'ai trop de phobies administratives pour m'expatrier, en vrai. Je trouve ça surprenant que tu aies peur de t'expatrier alors que tu as l'exemple de l'expatriation proche de toi avec ta mère. Écoute, c'est pas faux, puisque ma mère est marocaine. Mais en fait, je pense que son exemple me montre aussi que c'est compliqué, en fait. Alors, ça l'est moins quand tu viens de France et que t'as un passeport de l'Union européenne et l'espace Schengen, etc. Mon passeport me permet d'aller un peu partout dans le monde. Le passeport de ma mère, avant qu'elle ait la nationalité française, ne lui permettait pas d'aller partout dans le monde. Et rien que venir, avoir un visa pour venir de Maroc en France, c'est compliqué, ne serait-ce que pour le tourisme, parce qu'ils ont peur que les gens y vont rester. Donc pour ma famille, par exemple, c'est très compliqué de venir me voir. Et en termes d'intégration, bah, je vois bien que, en fait, ma mère, elle est à cheval entre deux cultures, entre deux pays, que quand elle est au Maroc, il y a des choses qui lui manquent, que quand elle est en France, il y a des choses qui lui manquent, qu'elle est d'ici et d'ailleurs, et je dis pas que c'est pas beau et enrichissant, mais je dis que c'est quelque chose. Justement, j'ai un exemple très direct de les bons côtés, mais les côtés plus compliqués aussi de l'expatriation. Et encore, j'ai connu ma mère quand je suis née, et que du coup, elle était déjà bien installée, je l'ai pas connue avoir des galères de, est-ce que je vais avoir mon renouvellement de titre de travail? Est-ce que, je vais trouver un proprio qui veut bien me louer un truc. Enfin, j'ai pas vécu ça de vivre dans un pays en étant étrangère, quoi. J'ai pas vécu ma mère qui joue en difficile au début, sans parler bien évidemment du racisme. Hein. Donc oui, j'ai un exemple proche de moi avec l'expatriation, mais justement, c'est un exemple qui me montre aussi que c'est pas juste on part à l'aventure et tout va être simple. Et je pense que j'aurais le mal du pays. En vrai, je suis pas la meuf la plus chauvine, mais j'aime vraiment beaucoup. Genre, je trouve qu'il y a vraiment trop de trucs cool en France. Je trouve que les paysages sont trop bien. Enfin, le pays est hyper beau et on a genre tout, à part peut-être un désert. Et encore, on a la dune du Pilat. Je trouve que la bouffe est incroyable. Je trouve que la sécu, c'est banger. Je trouve qu'on a une histoire politique et culturelle hyper riche. Je trouve que on a une facilité à débattre, à se prendre la tête et tout, qui est vraiment cool. Enfin, on a une architecture qui est belle, on a des musées, on a un accès à la culture qui est pas parfait, mais qui est quand même assez ouvert. Enfin, je suis contente plutôt d'être française, en fait. Et c'est bien pour ça que je râle quand on fait de la merde, car j'aimerais bien être fière de plein d'aspects de mon pays, et pas que ceux que je viens de vous citer. Donc j'ai, au-delà de j'ai peur de m'expatrier parce que j'ai une phobie administrative, j'ai tout simplement pas envie de m'expatrier. Et bah, par exemple, ouais, de la Belgique, à la limite, ça va, mais ça va parce que ça ressemble sous pas mal d'aspects, notamment la langue, hein, mais pas que dans certains coins de la Belgique, ok. I know, la Wallonie, tout ça, les Flamands, je sais. Ça ressemble pas mal à la France, mais je sais exactement ce qui me manquera aussi, quoi. Donc voilà, la bouffe aussi. Si, donc, sur Reddit, où est-ce qu'ils iraient, les gens? Alors, ouais, non, mais voilà, ils vont faire des blagues, ils sont chiants sur Reddit, puisque la top commentaire, c'est Bretagne. Voilà. Suisse. L'Irlande, la Suisse, la Suède, la Norvège, j'en ai marre des canicules, je veux du froid. C'est vrai qu'il y a aussi cette logique, hein. Vous remarquez que je vous ai pas cité beaucoup de pays du Sud. Vous êtes là, vous voulez aller vivre au Portugal et tout. Bon courage, la mif. Ah, quelqu'un du Nord, probablement, qui nous dit « En Belgique, parce que j'habite à 10 km de la frontière, ça ne changerait pas grand-chose pour moi, et j'ai déjà des potes belges. » Et quelqu'un dit « Moi, je suis à 150 km, mais avec la promesse d'une bonne bière à l'arrivée, je ferai l'effort. » Le Canada. Ah, et quelqu'un dit « Trop proche des USA. » La Nouvelle-Zélande. Jamais trop chaud, jamais trop froid, zéro animal prédateur, bon niveau de vie, gouvernement relativement respectable, paysage magnifique, le choix du gros mais. Alors je crois que la Nouvelle-Zélande c'est cool, mais c'est très cher et c'est dur d'avoir un visa parce que c'est une île et un pays justement où la qualité de vie et la richesse est pas mal. Donc il me semble que c'est dur d'avoir le droit d'y rester forever, quoi, voire d'avoir la nationalité. C'est peut-être pas la Suisse, mais bon. Ah, Améthyste, j'ai fait l'inverse, je suis venue en France, donc l'expatriation en facile. T'es venue d'où, c'est pas indiscret? Comment ça s'est passé pour toi d'arriver en France Et est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris ou surprise? Est-ce qu'il y a des trucs qui, au contraire, étaient très proches de ce que tu connaissais? Enfin, comment ça a fait? Arnaud nous dit « Je suis dev freelance et j'ai fait quelques mois de digital nomade, donc de travailler en voyageant. Bonne expérience, mais au bout d'un moment, j'étais fatiguée de faire des rencontres éphémères et mes proches me manquaient. » Bah oui, je comprends. Après, t'expatrier, c'est pas forcément digital nomade. Pour le coup, je peux aller vivre à Bruxelles et rester à Bruxelles et finir par me faire des potes qui ne sont pas, j'espère, éphémères. Mais oui, je pense aussi que j'ai tout mon tissu social et toutes mes petites habitudes, les villes que je connais, les références que j'aime et tout, qui sont en France. Et en fait, peut-être qu'en Belgique, Mission Cléopâtre, ça vous a moins fait rire, alors que c'est quand même super marrant. Donc bah je ferai des vannes sur Mission Cléopâtre et les gens ils seront là quoi, c'est un quoi, et moi je serai là bah si quand même c'est super marrant. Voilà, c'est possible par exemple. Little Volpe nous dit « Partir, ça m'a permis d'apprécier plus certains aspects de la France et c'est marrant parce que tu te sens jamais autant français que quand tu es à l'étranger. C'est un des premiers trucs que les gens vont retenir comme « ailleurs, c'est une particularité ». Mais j'avoue, c'est banger de ne pas payer ma consulte chez le médecin avec ma carte française européenne d'assurance maladie quand les Irlandais payent 45 euros. » Carrément, oui, c'est si vous voyagez en Europe, n'oubliez pas votre carte européenne d'assurance maladie et ou si vous vous expatriez en Europe, bien sûr. Et c'est vrai que, alors quelqu'un plus haut dans le chat disait voilà, l'une virtuelle disait les points positifs de la France disparaissent petit à petit, la sécu, l'école gratuite, les 35 heures. Je dis pas que c'est en phase d'amélioration, c'est bien pour ça que je disais que ça m'arrive de râler. C'est pour ça que je vous parle de la gauche, c'est pour ça que je vote, c'est pour ça que j'essaye à ma petite échelle de faire des choses. Mais on a encore, voilà, on a des bonnes bases par rapport à pas mal d'autres pays. Et José Greg dit l'assurance maladie est un game changer sur le choix du pays où j'irai. Bah, je comprends, hein, parce que franchement, c'est un truc de fou de pas avoir peur de prendre soin de sa santé, physique principalement, un peu mentale, même si en France on n'est pas encore au top sur les remboursements de tout ce qui est autour de la santé mentale. Enfin, on pourrait faire plus, mais oui, ça peut tout changer. Parce que comme on dit, l'important c'est la santé.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ok, Métis nous dit, j'ai bougé de Belgique, donc grave à côté, et j'ai galéré avec l'administration, genre plus de 9 mois pour une carte vitale alors que je suis citoyen européen. Ouvrir un compte ici, ça a été horrible, alors que CDI plein temps plus ratio. C'est trop chelou que ça a été horrible d'ouvrir un compte, trouver un appart, je peux entendre, mais ouvrir un compte, je me serais dit que les banques sont toujours contentes d'avoir des nouveaux clients. Mais du coup, bah welcome, bienvenue en France. Et j'espère que l'administration arrêtera de te faire chier. Mais la vérité, c'est qu'elle nous fait chier tout pareil aussi. Nous, les Français et Françaises, de souche. Donc, bon, what can we do à part râler dessus en terrasse autour d'un bon verre de vin? C'est ça qu'on veut, finalement. Ah, Arnaud nous dit, j'ai eu le plaisir de tester le système de santé américain. Clairement, tu bénis la France en revenant. Et évidemment. Ah ouais, les impôts PTDR, nous dit Amétis, donc, qui s'est expatrié de Belgique en France. Tu m'étonnes, ça doit être la Hesse. Bon courage. Avoir un compte pour les impôts en France, c'est relou quand tu es étranger. Ok, force. Mais vous voyez, je suis très sérieuse quand je dis qu'une des raisons pour lesquelles je ne veux pas m'expatrier, c'est ma phobie administrative. Je viens à peine d'arrêter de faire des crises de panique quand j'appelle l'URSSAF. J'ai pas envie de devoir repartir du début avec des Belges qui me disent « Ah non, mais ici, genre ma petite sœur, elle s'expatrie en Belgique. Elle vit à Bruxelles, elle travaille à Bruxelles. Alors, elle a pas la nationalité, mais elle vit là-bas depuis des années. Et du coup, elle m'expliquait ses bails de « Ouais, mutuelle et tout, machin. » Et j'étais là « Oh, c'est chaud. » Et genre, il n'y a pas la rupture co. J'étais là « Quoi ? » C'est chaud. Et genre, les stages, ils sont pas payés, non ? Il n'y a pas ça ? Je sais pas. Les banques sont trop chiantes maintenant pour les étrangers. Elles demandent des justificatifs, n'importe quoi. Ok, je savais pas. Ok. Fin du sujet expatriation cocorico. Ok. On va se faire un petit sujet Ask Meuf. Ah, c'est quoi les pires red flags quand vous rencontrez un mec ? On va plutôt faire ça, quoi. Alors, on va commencer petit avec une histoire individuelle. Est-ce que je suis un red flag ? Nous demande un homme sur Ask Meuf, qui est donc un subreddit où les hommes peuvent poser leurs questions, mais on attend que ce soit plutôt des femmes qui répondent. Bonsoir les meufs. Je me suis séparée de ma compagne récemment, mais depuis, nous vivons toujours sous le même toit. Je suis rarement à notre domicile. J'envisage de déménager d'ici 3-4 mois, une fois que nos situations financières respectives se sont stabilisées. Ok, bah je connais des gens dans ce cas-là, notamment à Paris, ou dans des zones immobilières très tendues. Et du coup, bah ça peut arriver qu'effectivement on se sépare, mais qu'on puisse pas vivre ailleurs parce qu'on peut pas se permettre de payer de loyer, on a personne qui peut nous héberger et tout, on a nulle part où mettre nos affaires, et qu'on soit ex et coloc pendant quelques temps, et ça peut aller jusqu'à plusieurs mois, le temps de se refaire, ou de vendre le logement si on l'a acheté ensemble, ou que l'autre personne puisse racheter notre part si on l'a acheté, elle veut y rester, enfin bon, l'enfer. Donc la personne nous dit « Je me suis inscrite sur Tinder la semaine dernière. À ma grande surprise, ça fonctionne et je dois rencontrer une fille cette semaine. Est-ce que j'attends notre première rencontre pour lui en parler ou est-ce que je lui en parle dès maintenant ? Est-ce que je dois attendre 3-4 mois avant d'envisager une nouvelle relation ?» Ok, donc il demande en gros « Est-ce que je dois mentionner tout de suite que j'habite encore avec mon ex ?» Il dit que j'y suis que 4 jours par mois. Donc on, mais on sait pas où. Donc ça fait 6 mois qu'il est séparé de son ex. Ok. Il pense que dans 3-4 mois encore, il pourra ne plus du tout habiter avec elle. En attendant, il y est que 4 jours par mois, mais il dit pas si il a un domicile personnel ou si en attendant il loge chez quelqu'un. Par exemple, je connais un mec dans cette situation, il loge chez son père. Donc pendant que son ex est dans l'appart qu'ils avaient acheté ensemble, le temps de régler tout ça. Donc ce que ça fait, c'est que il peut pas vraiment non plus recevoir de date chez lui, vous voyez l'idée. Donc est-ce qu'il faut le dire avant même le date? Est-ce que c'est un red flag d'habiter encore avec son ex? Est-ce qu'il devrait attendre que tout ça soit fini avant de pouvoir ne serait-ce qu'envisager une relation? Votre avis avant d'avoir l'avis de Reddit. OK. On a Josy Grec qui dit je pense qu'il est de bonne foi mais ça ne paraît pas bien pour la nouvelle partenaire. Lune virtuelle dit « Moi, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que la relation est au point mort, mais qu'il y a rupture officielle depuis quelques jours. Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Cadlo dit « 6 mois, ça va en vrai, en parler juste pour prévenir. » Améthyste demande « Depuis quand la crise du logement, c'est red flag ?» Ah oui, en effet. La personne dit « Ça fait 6 mois que notre relation est off, c'est que maintenant, mais maintenant, récemment, c'est officiel. » Donc on peut imaginer que ça fait 6 mois qu'ils sont déjà en fait plus colocs qu'autre chose, et que bah ils ont officialisé genre « Bon, on n'est plus ensemble. » C'est pas forcément... un red flag, je trouve. Mara Desbois dit « Moi, j'aurais du mal, mais il faudrait à minima en parler. » Ok. Écoutez, moi, je suis dans la team, c'est pas un red flag. Peut-être parce que je vis dans une zone immobilière très tendue qu'est Paris et que je comprends bien que des fois, ça peut prendre longtemps de trouver un appart. Ne serait-ce que si, par exemple, la personne n'a pas de CDI. Bah, c'est hyper compliqué de trouver un appart à Paris, quoi. Et au SMIC. Enfin, ça peut être très, très dur. Donc, je comprends complètement que parfois, bah, on n'a pas le choix. Je pense pas que je serais là genre mec t'aurais vraiment dû me le dire avant le date, genre parlons-en, si je l'apprends au bout de 4 dates c'est chelou, parlons-en au premier date quoi, genre de toute façon on va se demander du coup toi t'habites où, c'est quoi ta vie, moi je pose des questions, dis pas vous me connaissez, donc s'il me ment c'est chelou, mais s'il me dit bah en fait voilà avec mon ex ça faisait 6 mois que c'était plutôt mort, on s'est séparés officiellement il y a pas longtemps mais du coup bah on cohabite le temps de quelques mois, le temps de trouver autre chose, je suis là ok bah du coup je vais pas aller te soulever chez toi mais tu peux me soulever chez moi. Je pense pas du tout que c'est red flag, quoi. Ouais, Little Volpe dit, c'est plus un red flag s'il en parle pas, ce qui compte, c'est que c'est ce qu'il veut. S'il est clair qu'il ne veut plus rien avec elle, c'est ok, ça arrive. J'avais daté un mec qui vivait avec son ex, mais au final, c'était plus sex friend que ex entre eux. Ça, c'est gros red flag. Ouais, s'il continue à soulever son ex, j'aurais tendance à dire, je crois à l'amitié homme-femme. Je crois à l'amitié homme-femme, même avec de la sexualité dedans. Ok, je pense qu'on peut avoir des sex friends et ne pas être amoureux. Je crois à l'amitié avec ses ex, et je crois même qu'on peut avoir des ex avec qui on couche de temps en temps si on a envie, et que c'est pas chelou, et que ça veut pas dire qu'on veut se remettre ensemble. Mais je crois qu'il faut une période de carence avant d'en arriver à là. Il faut la coupure nette et précise de « il y a un temps pendant lequel on ne fait plus ce qu'on faisait en couple ensemble, y compris baiser. » Et si on veut attendre, on fait un peu notre vie, et là on se dit « en fait c'était cool le cul ensemble, est-ce qu'on garderait pas ça ?» Machallah, let's go. Si c'est trop rapide pour moi, ça veut juste dire, en vrai, on n'est pas vraiment séparés, on n'est pas sûr. Et 100% des exemples que j'ai connus dans ma vie, c'était ça. Donc bon, en effet, s'ils dorment dans le même lit, je m'en fous. S'ils couchent ensemble, je suis là, bah frère, non, pour le coup, règle ton bail, tu sais quoi. Et après, mets-toi sur Tinder. T'es pas trop dans le truc, quoi. Alors, Lune virtuelle dit, c'est pas forcément un red flag, mais les gars qui sont toujours dans l'esprit rupture sont souvent pas aptes à commencer une nouvelle relation. Ça, je pense que ça vaut pour tout le monde, pas que les gars, c'est ce qu'on peut appeler parfois les relations pansement, c'est que tu passes après une rupture, enfin, tu sors avec quelqu'un qui vient de rompre, surtout d'une relation importante, il y a un peu le côté, genre, t'as peu de chance qu'avec toi ça dure, parce que la personne, c'est plus, elle se remet en selle, elle découvre des nouvelles choses et tout, elle a peut-être envie de variété après avoir passé X temps avec une même personne, c'est en plus, d'autant plus si c'est une relation monogame. Et puis peut-être juste elle est pas prête, elle a besoin d'être un peu solo pour digérer cette relation et cette rupture et aller de l'avant de façon plus alignée dans son prochain couple. Donc pour moi c'est plus un red flag entre guillemets, ok tu viens de rompre, que t'habites encore avec. Mais ça dépend pourquoi. Peut-être il veut juste un plan cul régulier, auquel cas bah, c'est pas forcément un problème qu'il soit pas forcément prêt à une relation en couple quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que ça dit sur Reddit ? Donc c'est plutôt des femmes hein, qui répondent. Déjà sur Tinder, alors que vous êtes séparés depuis peu et que vous vivez ensemble, ce qui laisse penser un certain sérieux, rien que ça, ça me dérange. Un mec qui vit avec son ex, même pas j'y vais. Un mec qui me cache qu'il vit avec son ex, j'en parle même pas. Un mec qui envisage déjà de se remettre en couple alors qu'il est encore sous le même toit que son ex, y a rien qui va. Mais je trouve ça hyper jugeant comme réponse, désolée. Mais je suis là, en fait, enfin le gars il a le droit de vouloir... En fait, il n'y a pas de période obligatoire... avant de se remettre en couple ou de juste coucher avec quelqu'un d'autre, quoi. En fait, en plus, il dit que ça fait 6 mois que c'est off, qu'il y a peut-être plus d'intimité, plus d'affection, plus... et je parle pas forcément de, d'intimité sexuelle, hein, mais de l'intimité et l'affection qu'on a en couple. En fait, le gars, il a le droit, quoi. Ouais, chacun avance à son rythme, comme tu dis, Maigred. C'est chelou, ce truc. Peut-être que je devrais poster sur Reddit au lieu de vous le dire, hein, comme ça, je répondrai à la personne, mais non. La personne dit ça s'annule pas si on les cumule. Donc la personne qui a fait le post, mais je suis là, mais c'est pas... Ok, donc la personne rajoute. Pour moi, ça fait presque 6 mois que notre relation est terminée, c'est juste devenu officiel. De plus, je ne suis que rarement à notre domicile, on vit ensemble sans vraiment vivre ensemble. Mais oui, tu as raison, dans cette situation qui me paraît claire, ça, elle ne sera sûrement pas si claire pour l'autre meuf, et elle va se sentir prise pour une conne. Mais pas du tout ! Oh là là ! Ah ! T'es chez où quand t'es pas chez vous? Pourquoi tu ne peux pas être là tout le temps au lieu d'y être 4 fois par mois? Je suis en déplacement pro. Je rentre pour voir ses gamins, donc les gamins de son ex, qui ont envie de me voir et réciproquement, la situation est évidemment plus compliquée pour mon ex. Ok, donc pour le coup, il a pas l'air d'avoir un logement à lui où il peut recevoir. Mais c'est pas grave. Bah, une autre réponse dit « Perso, un mec qui habite encore avec son ex, j'aimerais le savoir parce que j'aurais même pas envie de le rencontrer. Trop ambigu, trop de problèmes possibles en perspective, big nope. » Mais faut vivre un peu, non, les gens? Que ce soit pour du sérieux comme du pas sérieux. Pour avoir vécu cette situation il y a peu et avoir été du côté de la fille, l'autre fille, c'est vraiment très inconfortable. De mon expérience, j'aurais tendance à dire « attends d'être en recherche active d'appartement, voire carrément sur le point de déménager. » Mais effectivement, comme dit avant, tu es libre de faire ce que tu veux. Seul conseil que j'aurais vraiment, ne lui fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'elle te fasse si les situations étaient inversées, c'est tout. Alors Josy Grec nous rappelle qu'effectivement la personne a édité son post, donc on a des gens qui réagissent à une version plus light du post avec peut-être moins de détails, mais ça a l'air quand même très catégorique de, en fait, si t'habites avec ton ex et ou si tu veux déjà te remettre en couple, c'est un red flag, je suis là, mais laissez les gens vivre, non ? Bon, et dernière réponse, quelqu'un dit « Je suis sortie avec un mec qui était encore à petite dose dans le même domicile que son ex le temps de son déménagement. C'était pas génial, mais pas horrible non plus. À partir du moment où je me sentais ultra safe et qu'il n'avait plus de sentiments pour elle, je m'en fichais un peu. Mais oui, ça sera quand même un minima, un orange flag pour beaucoup de femmes, mais mentir serait bien pire, ce qui est vrai. » Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui pensent qu'être pote avec ses ex, c'est un red flag, Arnaud, j'oublie. Peut-être qu'on est moins conservatrice que certaines femmes de Ask Meuf. Écoutez, c'est possible. Et du coup, on avait une autre question, red flag. Il y a beaucoup de questions relations hein, sur ce genre de subreddit, c'est assez classique. Quels sont vos pires red flags chez les mecs? On va lire rapidement un top commentaire ou deux, mais je pense qu'on les a. Hein. La misogynie, les hommes qui se lamentent parce qu'avec le mouvement féministe, on est perdu, on n'a plus le droit de rien. Le manque de respect envers les autres êtres humains, racisme, comportement désagréable envers les gens qu'ils considèrent inférieurs, homophobie. Le manque d'hygiène, l'indécision chronique parce qu'à un moment, il faudra qu'on prenne des décisions ensemble et c'est fatigant. Ça élimine déjà beaucoup de gens. Ah, et quelqu'un lui dit « Coucou, est-ce que tu peux détailler ce que tu entends par indécision chronique au début d'une relation qui serait un red flag ? Mettez-moi vos petits red flags dans le chat. » Et la personne dit « Typiquement, le mec qui sait pas ce qu'il veut pour plus tard, qui sait pas quand tu lui demandes s'il a des projets ou des envies pour l'avenir, qui sait pas s'il veut être en couple ou juste un plan cul, etc. Ça repose sur une expérience personnelle. Au début, ça peut paraître normal, mais au bout de 2 ans, le mec ne savait toujours pas s'il voulait qu'on passe notre vie ensemble ou pas. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste un truc qui me rend dingue personnellement. Ça m'a empêché de vraiment m'investir et de me lier avec lui parce que je naviguais sans avoir aucune idée de l'endroit où j'allais. Donc j'ai progressivement désinvesti la relation devant l'impossibilité de faire des projets pour l'avenir. » En vrai, je comprends, et c'est peut-être dur pour certaines personnes qui sont un peu indécises ou qui ont pas envie de se projeter. J'ai un pote comme ça, genre il se projette pas, il est là. Me demande pas ce que je fais dans 2 semaines, tu vois. Genre, je sais pas ce que je fais dans 2 semaines, je sais pas ce que je fais dans 2 mois. Je sais pas si je vais rester avec ma meuf ou pas, laisse-moi, tu vois. Et je suis là. You live like this. Désolé, mais pour moi, c'est... Alors, c'est pas un red flag, genre mauvaise personne, mais c'est... ça va pas être possible, ça va pas être compatible entre nous, parce que moi, je suis une personne anxieuse qui a besoin de me projeter beaucoup, d'accord ? Et aussi parce que, bah voilà, j'ai envie que la personne me montre qu'elle a envie, et en fait, pour moi, j'ai toujours peur que ça soit le signe d'une personne qui s'écoute pas. Et je dirais que pour moi, voilà, vous m'avez pas demandé, mais vous aurez ma réponse, le red flag principal qui pourrait freiner une relation avec un nouveau gars, ce serait il s'écoute pas, il sait pas qui il est pas connecté à lui-même, il ne sait pas qui il est. Si vous avez vu Barbie, peut-être que ça vous parle. Et je blâme absolument pas les gens qui savent pas, qui ont du mal à savoir qui ils sont, parce que c'est très dur de savoir qui on est. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui sait un minimum qui il est, qui connaît un peu « I am the captain of my soul », tout ça. Et qui, du coup, peut avoir une vision pour la suite aussi. Parce que je pense aussi que quand on se connaît pas et quand on s'écoute pas, on bosse à l'instinct et à l'impulsion. Et du coup, on n'est pas capable d'avoir... des réactions saines et positives et qui font évoluer la relation quand il y a des problèmes. Et j'aurais juste peur d'être en charge tout le temps émotionnelle et thérapeutique de la personne. Je l'ai fait beaucoup, j'ai plus envie de le faire. Donc voilà, moi j'aurais besoin d'un mec qui a un peu taffé sur qui je suis, ce qui veut pas forcément dire qu'il a été en thérapie ou qu'il y est, mais qui se pose ce genre de questions, quoi, et qui a une idée de qui il est. Tu fais comment pour te projeter avec le climat politique actuel ? Mais en fait, je dis pas que je suis sûre ou que je me projette genre le 28 octobre 2028, je ferai ça. C'est plus, est-ce que je me projette avec mon mec ? Est-ce que si je me dis, est-ce que ok, dans 2 ans, à quoi ressemblerait ma vie ? Est-ce que je le vois dedans, tu vois ? Est-ce que dans ma vie j'ai des projets ? Voilà, est-ce que je me dis j'ai envie de m'expatrier ? Est-ce que je veux des enfants ? Spoiler non. Est-ce que je veux me marier ? Spoiler pas vraiment. Je sais pas à quoi ressemblera ni le climat ni la politique, mais je sais que j'aurai quand même ma petite vie et qu'il faudra bien que j'en fasse quelque chose. Donc il y aura peut-être mon mec là-dedans et peut-être pas, pour l'instant je suis avec, donc j'espère que oui. Et c'est important pour moi de pouvoir faire ça et en fait voilà, les questions que je me pose, c'est pas est-ce que je me vois avec mon mec dans 2 ans tout court, c'est si oui pourquoi, sinon pourquoi, qu'est-ce que j'aurais besoin qu'il soit dans 2 ans, qui est-ce que je pense que moi je serai dans 2 ans connaissant qui je suis maintenant. Comment est-ce que on devrait poser des jalons dans notre relation maintenant pour que dans 2 ans ces petites graines aient poussé et nous fassent un treillis plus solide. Tout ça, c'est des questions qui nécessitent de pouvoir se projeter un peu. Et je pense juste que les gens qui veulent pas se projeter, ils devraient sortir avec des gens qui veulent pas se projeter, parce que je pense que c'est frustrant dans les deux sens. Mon pote qui se projette pas, quand je lui demande trop souvent, tu fais quoi tes vacances, ça le legit stress. Il me dit, est-ce que tu peux arrêter? Je suis là, ok, sorry. Et moi qui me projette beaucoup, les gens qui se projettent pas, ça me legit stress. Quelqu'un qui dit tout, genre, bah, mon pote qui veut pas se projeter, ce qu'il dit tout le temps, c'est on verra. Et il m'a dit, je me suis déjà fait embrouille par des ex, enfin, quand je sortais avec elle, parce que je dis tout le temps on verra. Et je suis là, I get it, mec! Si j'étais ta meuf et que tu me disais tout le temps on verra, vraiment, je mettrais un câble! Donc c'est juste, on n'est pas compatibles, c'est pas grave, quoi. Se projeter en tant que gars rebeu en France actuellement, c'est chaud. Yes, on est ensemble. Ouais, c'est chaud, mais on va essayer de tout faire pour que ça se passe pas trop mal. Oui, et comme le rappelle faille spatio-temporelle, on peut se projeter, échanger d'avis sur certains points avec le temps. Se projeter, ça veut pas dire signer un contrat. Bien sûr, bien sûr. Les red flags de Lodi. Manque d'autonomie, jalousie et possessivité. Ne me soutient pas dans mes projets, ne fait pas sa part dans les tâches ménagères, veut m'enfermer dans le rôle de femme au foyer. Me coupe la parole et ne me pose pas de questions. Ça marche aussi, mais ça, généralement, je le sais assez vite. Si son appart est crade, et le mec qui respecte pas les gens comme des êtres humains, il manque d'humilité. Oui, comment tu traites les inférieurs, genre le serveur, le caissier, etc. Très très bon flag. Ok, pour rappel, tous les jeudis, il y a une recette qui débarque sur mon Patreon, une recette de Mimi, et oui. Il y a eu la recette des lasagnes de Nodius, la recette de la blanquette de veau interdite, la recette du poulet rôti marocain de ma maman, et oui, elle est sur mon Patreon. Merci beaucoup d'avoir été là. Des bisous, bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préférée. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Hegel débrief les séries, tout simplement. M'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigaï chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.